Je vous propose deux parties. Une première partie d'explorer ensemble cette phrase « Au commencement était la relation ». Pour nous chrétiens, elle a une consonance très forte avec ces phrases du prologue de Jean « Au commencement était le Verbe ». Dans une deuxième partie, qui suis-je ? Moi qui suis en relation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'explorer la relation aux autres, mais qui suis-je, moi qui suis en relation ? Qu'est-ce que ça impacte sur ma personne d'être un être fondamentalement relationnel ? Dans la première partie, il s'agira donc d'étudier ensemble la relation comme étant la matrice de l'humain. La matrice, c'est-à-dire le milieu où je deviens humain, où j'adviens à ma propre personnalité. Nous allons explorer différents points. D'abord, différents types de relations à travers le récit de la Genèse, les relations de couple, les relations fraternelles, les relations entre les peuples, et aussi la relation de l'homme avec la nature. Alors, je vous annonce le plan, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et nous allons essayer de comprendre l'actualité de ces récits de la Genèse. Dans la deuxième partie, qui suis-je ? Pour entrer en relation, je suis un être responsable, dira Lévinas. Je suis un être de désir, mais je suis aussi un être de conflit. Et le titre global de ma conférence parlait aussi de la pensée de René Girard. C'est là qu'on va faire un petit détour par René Girard. Et dernièrement, je suis un être qui émerge progressivement du conflit pour découvrir mon propre désir, mon désir autonome. Au commencement était la relation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abord un moi qui va rencontrer un toi, un vous qui va rencontrer un nous, mais qu'il y a dès le départ, dès le point de départ de l'humanité, de ma vie, une rencontre et une altérité. La relation n'est pas l'apanage de l'âge adulte, de la maturité. On le sait bien, l'enfant ne pourrait pas survivre sans relation. Il a besoin d'être lavé, d'être langé, d'être accompagné, d'être consolé. On a besoin de lui parler. Sans cette parole au point de départ de la vie d'un enfant, il manque quelque chose d'essentiel. Ça montre bien que dès le début, peut-être même in utero, puisque les recherches vont dans ce sens-là, on parle, on communique, on entre en relation avec le tout-petit. Et c'est cette qualité de relation qui va faire la qualité de son développement. Au commencement était la relation. Ça veut donc dire que dès le point de départ, nous sommes des êtres relationnels. Nous nous constituons par et dans la relation à l'autre. Très concrètement, ça veut dire que l'autre n'est pas une option dans ma vie. C'est même pas seulement un choix que je fais, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est une métaphysique. C'est quelque chose de ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine. Emmanuel Lévinas est le philosophe qui a fait de l'éthique, c'est-à-dire l'étude de la relation aux autres, une métaphysique, une philosophie première. Ça veut dire que ce domaine de la relation aux autres accède au rang le plus fondamental et le plus ultime de la vie humaine. Alors, premièrement, on va relire ensemble très brièvement les récits de la Genèse. Il ne s'agit pas de faire de l'exégèse, je ne suis pas exégète. Mais ces textes, nous les prenons ce matin comme étant des écrits fondateurs pour l'humanité, des grands textes qui nous parlent de notre vie, de notre histoire, de notre structure humaine. Dans ces textes de la Genèse, il y a cinq types de relations fondamentales, un petit peu comme si cette relation originelle qui nous constitue se déclinait en cinq relations spécifique, particulière. Et vous allez voir, on va y retrouver très vite les relations que nous avons tous les jours, une espèce de typologie des relations. Il y a d'abord cette relation très forte de l'homme avec Dieu. L'homme est créé par Dieu, ça veut dire qu'il se reçoit d'un autre, plus grand que lui. Ça veut dire qu'il est dès le départ lié à un autre que lui. Deuxième type de relation, la relation entre Adam et Ève. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et les exégètes contemporains, par exemple Marie Balmari, qui est une femme qui croise un regard biblique et toute la science psychanalytique, dit que quand il est écrit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », l'homme, ça renvoie à Adam, c'est-à-dire au genre humain. Et c'est dans un deuxième temps que le genre humain va se différencier en homme et en femme, en ish et ishia, ce sont les termes. Ça veut dire que c'est dans la relation de l'homme et de la femme que progressivement va émerger l'humanité. La relation entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme, est le lieu où ils vont devenir pleinement eux-mêmes. Ils ne sont pas créés homme et femme dès le point de départ. C'est dans la relation qu'ils vont avoir l'un avec l'autre qu'ils vont devenir ce qu'ils sont. Alors vous voyez, on va très vite avoir des échos aussi avec les débats très contemporains. Toutes les questions du gender, toute la question de l'identité sexuelle, toutes les questions liées au mariage, à la famille, sont contenues en germe ici. Il ne s'agit pas du tout de donner des recettes, il n'y en a pas. On aimerait bien qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Ici, il s'agit d'avoir quelques points d'interrogation, quelques questions qui s'éveillent à travers ces textes de la Genèse. Mais si les questions et les réponses étaient contenues ici, ça se saurait. Deuxième type de relation, la relation dans la fratrie, la relation fraternelle entre Abel et Caïn. Caïn est jaloux d'Abel et il tue Abel. Le mal est entré dans la relation constitutive des personnes. L'intérêt de ces récits de la Genèse, c'est de montrer à la fois qu'au commencement est la relation, mais au commencement aussi, la relation est déjà cassée. Elle est déjà abîmée, elle est déjà brisée. Ça veut dire qu'il va toujours falloir tenir ensemble le fait qu'à la fois la relation est originelle, constitutive de la personne humaine, mais aussi qu'elle va toujours être à guérir, à restaurer. Elle ne va pas de soi. Donc si nous, dans nos propres vies, les relations que nous pressentons ou que nous savons essentielles et fondamentales sont abîmées, sont difficiles, sont douloureuses, c'est normal. Déjà dans la relation homme-femme entre Adam et Ève, la relation était brisée, était blessée. L'Écriture dit « ton désir ». On parle du désir de la femme, te portera vers l'homme et il te dominera. Le projet n'est pas tellement positif. Et Adam va se défendre. La relation, elle est blessée, il y a une rupture de solidarité. Il accuse la femme. Ce n'est pas moi, dit Adam, c'est la femme. C'est la femme qui introduit le déséquilibre dans la relation. Ou même c'est ta faute à toi, Dieu. Donc la relation, elle est blessée dans le couple, elle est blessée dans la fratrie, elle est blessée entre les générations, entre parents et enfants, puisque l'enfantement se fera dans la douleur. Il se vit dans une certaine violence, la matrice doit être déchirée. Alors on l'a dit, la relation est la matrice de l'humain, et dès le départ, la matrice doit être déchirée. Pour parler comme Freud, le père doit être tué. Ce récit de la Genèse, il est étiologique. Étiologique, ça veut dire qu'il présente quelque chose de structurel, de permanent, comme un regard un peu, même beaucoup, vertical. Il nous aide à comprendre ce que nous, nous vivons aussi aujourd'hui. Il ne va pas apporter de réponse, on l'a dit, mais il va nous permettre de situer où ça fait mal. Mais là où ça fait mal, c'est aussi que c'est là où c'est essentiel. Il ne va pas nécessairement nous livrer les pourquoi. Il y a un problème et il est là. Mais ils permettent, ces récits de la Genèse, de montrer aussi que le plan de Dieu, comme le plan d'une maison, quand on va construire une maison, le plan de Dieu, il est d'être en deçà de la brisure de la relation et il est au-delà. Il va chercher à restaurer la relation. Donc vous avez là comme une grande fresque qui ouvre notre histoire, qui ouvre le sens. Toute l'histoire de l'humanité, comme l'histoire de nos vies, ça va être de restaurer les relations abîmées, cassées, ou du moins en potentiel et qui tendent à s'actualiser. Au commencement était la relation. La phrase de Lévinas fait consonance avec ces récits de la Genèse. Et l'imparfait qui est utilisé ici, c'est un petit détour plus technique, mais que je trouve très intéressant pour comprendre, cet imparfait est un imparfait qui signe, qui marque la permanence du problème. Au commencement était la relation, au point de départ est la relation, et au point d'arrivée sera la relation. Ce n'est pas quelque chose qu'on rejette dans le passé, auquel il faudrait revenir un peu de manière nostalgique, comme on voudrait revenir au paradis perdu. Non, au commencement était la relation, c'est comme quand on dit dans les prières à la messe, il était, il est, il sera. Au commencement était la relation et nous sommes appelés à regarder l'horizon de nos vies dans la lumière de la relation. Le troisième type de relation que présentent les récits de la Genèse, c'est la relation entre les peuples. C'est l'épisode de Babel. C'est en gros, en grand, en macro, on va dire, ce qui est vécu en micro au niveau du couple, au niveau d'Abel et Caïn, au niveau d'Adam et Ève. Les peuples sont appelés dès l'origine à entrer en relation, une relation qui ne soit ni fusionnelle, c'est-à-dire une seule langue, un seul discours, mais pas non plus l'éclatement de la relation. On y reviendra. Et cinquième type de relation, alors, je récapitule, parce que, si vous voulez, il y a trois types de relations, le couple, la relation fraternelle et la relation entre les peuples. Le couple Adam et Ève, la relation fraternelle Abel et Caïn, la relation entre les peuples, l'épisode de Babel et de la division des langues. Plus fondamentalement, il y a la relation de l'homme avec son Dieu, la création. Et dans le prolongement de ces types de relations, il y a la relation de l'homme avec ce qui n'est pas l'homme, avec la nature. C'est ici toute la problématique de l'écologie. Quel est le rapport, quelle est la relation que j'entretiens, que l'humanité entretient avec la nature? Est-ce qu'elle va être faite de respect de ce qu'est la nature ou est-ce qu'elle va être dans une logique de destruction de cette altérité, de consommation, de surconsommation? Ce que je voudrais vous montrer à travers cette typologie extrêmement brève qui mériterait d'être explorée, c'est que c'est toujours la même logique qui est à l'œuvre. La relation à un autre que moi qui me permet d'être encore plus moi-même, d'être fondamentalement moi-même. Dans la mesure où je détruis l'autre, cette altérité, je me détruis aussi moi-même. Et ce thème peut être décliné dans les relations humaines, dans les relations affectives, dans les relations d'amour et d'amitié, dans les relations sociales, dans l'écologie, dans les relations avec la nature. C'est ce schéma que je cherche à mettre en évidence ce matin. Alors il y a donc une actualité. Une actualité de ces récits de la Genèse. Platon écrit, Platon c'est ce philosophe grec de l'Antiquité, il écrit quelque part que le politique dit en grosses lettres ce qui se vit entre les individus. Alors comprendre l'actualité de ces questions au niveau du couple, ça me paraît être une évidence. La relation constitutive de la personne, la place de l'autre, c'est d'une éminente actualité. On voit tous les débats qui ont agité la France au printemps sur le mariage pour tous, sur la procréation assistée, sur l'accès à l'enfantement. Enfin, j'ai pas envie de traiter ça aujourd'hui parce qu'on en a tellement entendu parler que peut-être dans les ateliers vous pourrez en rediscuter, mais j'ai pas tellement envie de passer la matinée là-dessus. En revanche, c'est quand même important de se rendre compte que ces débats s'ancrent dans une anthropologie, que les questions qu'elles agitent sont des questions philosophiques et pas simplement politiques. La question de l'altérité au niveau des peuples, des nations, des religions, quelle est l'actualité de ces questions ? C'est bien au cœur de la relation que chaque peuple va mûrir, va s'unifier, va prendre conscience de lui-même, va forger sa propre culture. Et nous le savons, par exemple, la France, depuis fort longtemps, a constitué son identité de manière dialectique avec l'Angleterre. On ne peut pas oublier, nous, dominicains, que Saint-Dominique a confié la formation de ses frères au tout début de l'ordre dominicain à un Anglais, ici même, à Toulouse, à l'université naissante. On ne va pas non plus relire toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire mondiale, mais on sait que l'Allemagne doit son unité aux invasions napoléoniennes, car Bismarck était dans un mimétisme avec Bonaparte. Aujourd'hui encore, on parle moins des Français, des Allemands ou des Italiens, mais davantage de l'Europe. L'échelle s'est déplacée, mais l'identité européenne se forge face aux Américains, aux Chinois. C'est toujours dans un vis-à-vis avec l'autre que se constitue une identité collective. On va parler de la civilisation européenne, surtout quand on l'oppose ou quand on la met en vis-à-vis avec la civilisation arabe, musulmane, avec la civilisation chinoise, avec la culture indienne. Au commencement était la relation. Et notre propre identité est faite d'emprunts aux autres. Des emprunts qui sont assumés, des emprunts qui sont digérés, des emprunts qui sont assimilés. Il ne s'agit pas d'être l'exacte réplique des autres, mais d'empêche que c'est dans la relation aux autres que je me constitue, que l'identité de mon pays s'est constituée. Le zéro, par exemple. Le chiffre zéro nous est venu des Arabes. Ou encore un exemple plus signifiant. Les Chinois ont inventé les feux d'artifice. Ils ont utilisé pour cela de la poudre. Les Européens ont utilisé cette poudre. Ils ont emprunté ça aux Chinois, mais pas pour en faire des feux d'artifice, mais pour en faire des canons et des armes à feu. Il y a donc bien une assimilation et une transformation d'un élément qui est venu d'ailleurs. Quand on étudie la Bible, on s'aperçoit qu'elle est une somme d'emprunts. Attention, je n'ai pas dit qu'elle n'était que cela, mais elle est une somme d'emprunts aux autres cultures et civilisations. Par exemple, le psaume 103 est un poème égyptien. La geste de Noé, c'est une reprise de ce qu'on appelle le mythe de Gilgamesh. les anges et les archanges et les inventions de la Mésopotamie. Pour autant, on ne peut pas confondre Noé et Gilgamesh. On ne peut pas confondre les feux d'artifice et la poudre à canon. Ça veut donc dire que chacun devient vraiment lui-même au creuset de la relation. C'est par et dans la relation à l'autre que je me constitue, ou qu'un groupe se constitue, qu'un pays se constitue, une culture se constitue, mais c'est aussi au creuset de cette relation qu'il va se différencier, qu'il va se devenir pleinement lui-même. C'est quelque chose qui est particulièrement vrai dans l'éducation. Les parents que vous êtes, les grands-parents, savent bien que l'enfant procède par imitation. Il emprunte des attitudes, des gestes, des paroles à ses proches, aux adultes qui l'entourent. Pour autant, progressivement émerge sa personnalité véritable. Il va se différencier, parfois de manière assez violente, à l'adolescence. Il va prendre certains éléments, il va en rejeter d'autres. Et ce qui me frappe le plus, moi, c'est quand je vois des grands-enfants, par exemple, et leurs parents, et parfois les parents se désolent que les enfants ont pris des chemins qu'ils ne comprennent pas tellement. Ils ont l'impression que leurs enfants ne leur ressemblent pas du tout. Et c'est source de souffrance. Et quand on a un regard extérieur, on se rend compte que les enfants, malgré ces différences, dans leurs différences, ressemblent étonnamment aux parents. Ils ont énormément reçu des parents. Mais ils ont fait leur... Ils ont assimilé, ils ont traduit à leur manière les engagements de leurs parents, les convictions de leurs parents. Et ça, c'est source d'espérance, c'est source de réconfort. Au commencement est la relation, et la relation est blessée. Elle doit être guérie, elle doit être restaurée. Pour nous, chrétiens, la promesse de Dieu... C'est justement que la guérison, elle est possible. Et donc, c'est par devant qu'il faut regarder, pas en arrière. Il ne s'agit pas de revenir au paradis perdu, à l'origine où il y aurait eu une relation extraordinaire et qu'il s'agirait de restaurer. C'est pas seulement ça. C'est devant, et ça va être encore mieux. Saint Paul écrit « Le Christ... » a détruit le mur qui séparait les peuples. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, ni juif ni païen. Et c'est très fort, parce que ça veut dire que ce qui rassemble, le facteur unifiant, va être plus fort que ce qui divise, que ce qui oppose, que ce qui sépare. L'avenir et plein de promesses, parce qu'au terme, ça sera beaucoup mieux qu'au point de départ. Permettons-nous un focus pour bien comprendre ça. La relation entre les religions, c'est un des lieux peut-être les plus douloureux, où on pressent que la relation entre les religions est essentielle, et en même temps, c'est peut-être là que les divisions sont les plus vives, les plus sources de violence. L'épisode de référence, c'est celui de la rencontre de Saint François avec le sultan. Saint François part rencontrer le sultan. Cette rencontre, elle symbolise de manière très forte la rencontre d'un croyant musulman dont la foi porte essentiellement sur la transcendance de Dieu. Alors que lui, Saint François, est porteur d'une foi qui est celle de l'incarnation, c'est-à-dire le mouvement, non pas inverse, mais l'accent est mis sur l'abaissement de Dieu, sur la petitesse de Dieu, voire même sur l'impuissance de Dieu. Donc la confrontation, elle pourrait être très violente. Face à face, vous avez la transcendance, et l'incarnation. Le récit nous dit, Saint François se tait. Il observe, il écoute. Il regarde le sultan prier. Est-ce que Saint François va devenir musulman ? Est-ce qu'il vit une sorte de relativisme de sa foi, de ses propres convictions? Tout au contraire. Saint François va revenir en Italie convaincu que l'incarnation est au cœur de la foi chrétienne. Et il invente dans la foulée une pratique pastorale géniale, celle des crèches vivantes. Ça veut dire que le dialogue entre les religions, loin d'atténuer les oppositions, renforce, quand il est authentique, la perception que chacun a de sa propre identité. À des catholiques qui douteraient de leur catholicisme, je leur conseillerais d'aller assister honnêtement à un culte protestant ou une liturgie orthodoxe. Aux Français qui douteraient de leur identité nationale, je dirais passez donc la Manche et allez en Angleterre, vivre quelque temps, ou simplement traverser le petit ruisseau qu'on appelle le Quiévrain et qui sépare la France de la Wallonie. Je vis depuis 10 ans bientôt en Belgique, et comme Française, de plus en plus, je découvre les différences entre la culture française et la culture belge. Et pourtant, la langue est commune. On pourrait croire que c'est quasi identique. Et plus le temps passe, plus les différences me sautent aux yeux. Ces différences ne sont pas nécessairement un fossé. C'est simplement, je suis renforcée dans ma propre identité et je comprends mieux l'identité de l'autre. L'autre a révélé ce qui en moi était le plus français. Mes réflexes de français, ma culture française, les apports de ma culture. Alors on pourrait méditer ici les versets de l'Évangile. Il faut se perdre pour se trouver. Il faut entendre ici accepter de se perdre de vue, de franchir la Manche ou le Quiévrain de temps en temps. Accepter de se perdre de vue dans la rencontre avec l'autre, pour se trouver, pour mieux se trouver dans la relation. Il ne s'agit pas de se perdre de vue pour se perdre tout court, mais pour mieux se trouver autrement, c'est-à-dire non plus dans l'auto-affirmation de ce que je suis, comme si tout ce que je suis, je dois l'affirmer, l'imposer dans la relation, mais je le reçois d'un autre, dans la réciprocité de l'échange. On peut comprendre ici aussi l'ampleur du mystère de la résurrection. Mourir à soi-même, à sa propre survie, parce que la mort c'est bien ça, c'est mourir à sa propre survie, pour accepter de vivre par un autre, parce qu'un autre me veut vivant. Dans le canon 4 de l'Eucharistie, on dit: il s'agit de mourir à nous-mêmes pour vivre par celui qui est mort et ressuscité pour nous. Cette logique même de la relation constitutive, fondamentale de la personne, de ma personne, de toute personne, est la logique même de la vie chrétienne. La logique même du message qu'apporte le Christ. Alors s'il faut une image pour comprendre cet échange merveilleux, parce qu'il s'agit bien de ça, d'un échange merveilleux, on peut regarder le jeu des enfants. Vous savez, les enfants, à un moment, ils aiment énormément se jeter du haut de 3-4 marches, se jeter dans vos bras. Ils apprennent la vie comme ça, ils apprennent la confiance en l'autre, un espèce de dessaisissement. Ils se lancent pour vérifier que l'adulte est bien là, que le parent est bien là pour les recevoir, pour réceptionner la chute, qui du coup n'en sera pas une, pour éprouver une espèce d'altérité qui n'est pas là pour contrôler, mais pour accueillir. Une altérité qui finit toujours par se manifester un peu à la dernière minute, et l'enfant aime beaucoup ce risque. Je me lance, est-ce que tu vas me réceptionner? Et si jamais tu ne me réceptionnais pas? Mais la joie vient du fait que justement, Il y a quelqu'un pour le recevoir. Et la joie des parents, c'est justement de sentir la confiance de l'enfant qui se lance dans ses bras sans peur. Au commencement est la relation, et ici les enfants sont nos maîtres. Nous aussi, nous avons besoin de le vérifier. Il y a quelqu'un qui va nous réceptionner. Nous avons besoin d'en prendre conscience, c'est l'objet d'une matinée comme celle-ci, de réfléchir à cette question. Et plus encore, nous avons besoin de nous appuyer sur cette relation fondamentale. Ce thème de la relation constitutive de la personne, a été énormément travaillé dans l'histoire des idées, dans la théologie, dans la philosophie, par les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui, au premier siècle de l'Église, ont pris le relais des évangélistes pour développer la pensée, la foi chrétienne. Et ce thème de la relation va devenir central chez saint Thomas d'Aquin, un penseur, un grand penseur, un dominicain au XIIIe siècle. Et il va utiliser ce concept de la relation pour parler de la Trinité. Cette logique relationnelle, elle est au cœur de Dieu. Elle est dans la personne humaine parce qu'elle est en Dieu. Elle est Dieu. Père, Fils et leur esprit commun. Aristote, philosophe grec auquel on se réfère souvent dans l'Église et dans la philosophie tout court, écrivait que la relation est une catégorie assez faible. Je schématise, parce que ce n'est pas le lieu là, de faire de la technique philosophique, et je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment essentiel. Mais chez Aristote, vous aviez la personne humaine qui a son autonomie, qui forme un tout. On dit qu'elle est subsistante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin des autres au départ. Et dans un deuxième temps, elle entre en relation avec les autres. Dans cette logique, comment est-ce que vous entrez en relation ? Ben avec tout ce que vous êtes, en vous affirmant, l'autre en face va s'affirmer aussi. C'est le choc inévitable, très vite. Dans la logique d'un Lévinas, dans la logique trinitaire, chacun se reçoit d'un autre dans une sorte de circularité, dans une réciprocité qui permet l'échange. Il n'y a plus un qui domine sur l'autre ou deux qui cherchent à dominer et puis c'est l'affrontement permanent. Il y a la volonté d'entrer dans un échange qu'on sait essentiel, qu'on sait constitutif, qu'on sait fondamental, et ça change tout. C'est la logique même de l'incarnation et de la résurrection, Dieu lui-même, lui qui est l'être par excellence, qui n'a pas besoin des autres, il est Dieu, veut avoir besoin de l'humanité, avoir besoin de l'homme. Dans la logique de l'incarnation, il se remet dans les mains de Marie, dans les mains de l'humanité. Et comment est-ce qu'il le fait ? Non pas comme tout puissant, mais comme tout petit enfant. C'est-à-dire dans la vulnérabilité la plus grande. Au Vendredi Saint, il se remet entre les mains de l'humanité sur une croix. Les mains liées, les pieds liés. C'est cette même logique d'accepter l'impuissance comme étant le lieu même d'une relation possible, comme la condition même de la relation, une dépossession, une pauvreté, une vulnérabilité choisie, consentie, reconnue comme essentielle. Lévinas est sans doute le penseur qui va le plus loin dans ces intuitions-là. Il a des images très fortes, des expressions très fortes pour parler de cette relation à l'autre dépossédée. Il va jusqu'à dire « l'autre me convoque, l'autre m'ordonne », presque au sens d'ordination sacerdotale, c'est-à-dire que pour nous chrétiens, ça a une résonance très forte. L'autre m'ordonne, il a une fonction quasi sacrée. Il est celui qui va me faire être, qui va me constituer. Je lui donne ce pouvoir sur moi. Je lui reconnais ce pouvoir sur moi. Je n'existe que dans cette relation à un autre qui m'appelle, qui me suscite, et pour nous chrétiens, qui me ressuscite. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, l'autre n'est pas une option. L'autre n'est pas simplement celui à qui je vais faire une petite place dans ma vie, parfois de manière très généreuse d'ailleurs. Je vais faire du bénévolat, je vais donner de mon temps, je vais m'occuper des plus pauvres et c'est très bien. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai compris, j'ai reconnu, j'ai accepté que l'autre me façonne. Il me fait exister. Et quand le pape François, depuis quelques mois, nous appelle à reconnaître la place des pauvres dans nos vies, pas simplement pour être charitable au sens où il faut quand même aider les plus faibles. C'est vrai qu'il y a une question de justice. Il faut aider les plus faibles. Mais ce n'est pas simplement ça qui est en jeu. C'est que les pauvres, ceux qui n'ont rien, me permettent de donner. Et en me permettant de donner, c'est eux qui me donnent le plus. Ils instaurent de manière éminente l'échange qui va me constituer, qui va me conférer ma dignité, qui va me responsabiliser. L'autre est celui qui va me permettre une réponse. L'autre est celui qui va me permettre de m'engager dans la relation. Et ce thème de la responsabilité est très développé chez Lévinas. Et on comprend très bien pourquoi. L'homme est d'abord un être responsable, capable de réponse. Et c'est dans la mesure où il répond qu'il devient pleinement humain. Ça veut dire, je ne peux pas démissionner de la relation à l'autre sans cesser d'être moi-même. Je ne peux pas démissionner sans déchoir de ma propre dignité d'être humain. Aucun autre ne peut se mettre à ma place. Je ne suis pas remplaçable. Aucun autre que moi peut répondre à ma place. Deuxième partie, donc, qui suis-je ? Moi qui suis en relation. Qui suis-je ? Je suis un être responsable. On vient de le dire avec Emmanuel Lévinas, je ne peux pas me soustraire à la relation sans cesser d'être un être humain. Un exemple très fort, c'est celui de la paternité, de la maternité. On le sait bien, le père, la mère, s'ils ne répondent pas à leur responsabilité de père ou de mère, ne sont pas remplaçables ou très difficilement. Il y a un manque qui signe justement ce caractère essentiel de la relation. Je suis un être responsable, capable de réponse. Je suis un être de désir. C'est ça que dessine l'anthropologie de la relation. J'aime bien ce jeu de mots de Denis Vasse. Denis Vasse est un jésuite psychanalyste lyonnais qui a énormément écrit et qui a cette phrase étonnante, « L'autre, dit-il, m'altère et il me désaltère. L'autre m'altère. Et il me désaltère. Il m'altère au sens où il m'impacte, où il me rend différent de ce que je serais sans lui. Il m'affecte. Et c'est bien toute la difficulté aussi des relations. C'est que si elles ont ce pouvoir énorme de vie, elles ont aussi ce pouvoir énorme de blessure, de souffrance, de mort, quand elles viennent à manquer leur objectif. L'autre m'altère. Et il me désaltère, c'est-à-dire, il est celui qui me permet de boire à l'eau de la vraie vie. Comment ? Et c'est là toute la subtilité d'une telle phrase. Il me désaltère parce qu'il me permet d'être pleinement moi-même un être de désir. Il permet la rencontre entre les personnes, la rencontre entre deux désirs, dont le but n'est pas la satisfaction du désir. La question serait réglée une fois pour toutes. Alors on serait plus vivant. Mais il permet au désir de s'exprimer toujours davantage. La joie de la rencontre vient de la rencontre de deux désirs qui se reconnaissent, qui s'appellent. Et cette rencontre, elle est très concrètement le lieu de la parole, le lieu de l'échange, le lieu de la construction d'une histoire commune. Je suis donc désaltérée, bien qu'ayant toujours soif, et c'est parce que j'ai toujours soif que je suis de plus en plus vivant. Vous reconnaissez ici les échos à la phrase de l'Apocalypse, que l'homme de désir s'approche et qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Et on entend aussi, on voit très bien la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il lui parle d'une eau vive, qu'il ne s'agira pas de boire, il ne s'agit pas de consommer l'autre, de le réduire à soi, mais il s'agit d'une eau vive qui jaillira comme une source dans le cœur du disciple. Ce sont des questions très profondes et c'est pas facile d'en parler. On les pressent. On pressent la vérité des intuitions de Lévinas, on pressent la vérité des intuitions de Denis Vasse, mais il ne s'agit pas d'établir un système. Il n'y a pas de recette aux relations avec les autres. Je suis un être responsable, moi qui suis en relation. Je suis un être de désir, moi qui suis en relation. Mais je suis aussi, et ça marche ensemble, un être de conflit. Lévinas a beaucoup développé la thématique de la guerre. Alors, quoi de mieux pour parler du conflit relationnel ? La guerre, c'est le paroxysme du conflit, c'est le conflit généralisé, c'est le conflit démesuré. Il a beaucoup souffert de la guerre avec sa famille. Je vous disais qu'il est arrivé en France au début du XXe siècle. Il a donc traversé, comme juif, toute la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Sa famille a été déportée en partie. Lui-même, sa sœur, je crois, a été sauvée, cachée dans un monastère de religieuses du côté d'Orléans. Mais c'est dire que cette question de la guerre n'est pas du tout abstraite. Elle l'a marquée dans sa chair. Et donc on peut lui faire confiance pour parler de la guerre. L'intuition qu'il développe et qui est très étonnante, il dit que la tentation permanente est de chercher la paix dans la suppression de l'ennemi. Si vous supprimez l'ennemi, il n'y a plus de guerre. Évidemment, vous dominez. C'est le principe même de la guerre. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous le tuez, c'est réglé. Lévinas affirme au contraire que la vraie paix est dans l'acceptation du conflit permanent. Pourquoi ? Parce que le conflit permanent est l'acceptation de l'autre, de l'altérité, de ce qui n'est pas moi. Et toute la difficulté va être de, justement, gérer les relations en acceptant le conflit permanent, c'est-à-dire en acceptant l'équilibre du déséquilibre. On retrouve ici l'intuition d'Héraclite, dans les tout premiers philosophes grecs, qui écrivait que le combat est le père de toute chose. Le combat est le père de toute chose. Et on retrouve aussi les affirmations radicales, si difficiles à comprendre, de Jésus de Nazareth, qui nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, et on aura pour ennemis les gens de sa maison. » Saint Paul écrit « Il est inévitable qu'il y ait des conflits entre vous. » Et donc, dans la logique de Lévinas, la tentation est de réduire l'autre à moi, c'est-à-dire de l'absorber. Et il y a mille manières d'absorber l'autre. Il n'y a pas simplement le coup de fusil, qui est la manière peut-être la plus radicale, mais qui est lourde de conséquences. Il y a aussi l'absorption, c'est-à-dire l'indifférence. Refuser à l'autre de parler, c'est le tuer d'une certaine manière. Je ne t'accorde pas le droit d'être mon interlocuteur. Je n'ai pas envie d'entendre ce que tu as à me dire. Je te rejette loin de moi, hors de la relation, et j'affecte ce qui est le plus constitutif en toi, c'est-à-dire ta capacité à entrer en relation. J'ai mon opinion et je la partage. C'est-à-dire, en d'autres termes, soit vous me prenez comme je suis, soit je sors de la relation. La vraie paix, selon Lévinas, c'est au contraire d'établir la possibilité dans nos familles, dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos sociétés, établir la possibilité de pouvoir exprimer des points de vue divergents, pas simplement différents, mais divergents, sans tuer la relation. Il parle de la guerre comme étant de la coexistence pacifique du mal. Alors on va être concret, prenons le cas de l'Union européenne. Je vis à Bruxelles régulièrement, vous le savez, et ces jours-ci encore, la question de l'Union européenne se pose. Le slogan de l'Europe, hein, la devise de l'Europe, de l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Depuis avant-hier, un 28e pays est entré dans l'Union européenne. La diversité est encore plus grande qu'au 30 juin. La Croatie est des nôtres. Il y a 24 langues officielles. Alors on peut penser à l'épisode de Babel. Et tous les textes législatifs sont traduits dans ces 24 langues. Et c'est un choix de l'Europe. Ce n'est pas simplement pour être gentil. C'est justement pour avoir le souci d'affirmer la diversité, la divergence. Et c'est un travail colossal qui coûte cher, mais qui montre l'axe de l'Europe. L'unité dans la diversité. L'unité sans la diversité n'est pas une unité véritable. Elle serait une uniformité, parce que l'enjeu de cette relation constitutive, l'enjeu de l'unité dans la diversité, c'est-à-dire de tenir les deux, c'est justement de ne pas réduire à un seul, ce qui serait le principe même des sectes ou de l'intégrisme. Les procédures juridiques européennes, les procédures politiques, les procédures administratives, continuellement affinées, qu'on trouve d'ailleurs très lourdes, hein, les technocrates de Bruxelles, on les condamne souvent pour cette espèce de technicité, bon. Eh bien, elles incarnent en fait le respect de l'autre, de la diversité, le respect de l'autre tel qu'il est lui-même, c'est-à-dire différent de moi et qui s'oppose à moi, parce que les intérêts des pays y sont divergents. L'intérêt de l'Angleterre n'est pas l'intérêt de la France. L'intuition de Lévinas, c'est donc d'accepter que l'ennemi puisse toujours exister. Il s'agit de dénoncer la paix des cimetières. Il s'agit de dénoncer l'unanimité comme étant, comme ce principe, tout le monde pense la même chose, tout le monde dit la même chose, une même langue, c'est-à-dire la langue de bois souvent. La doctrine du parti, le catéchisme commun, le livre rouge, l'unanimité perçue comme pensée unique. C'est-à-dire la réduction de tous à un seul, qui conduit à la tyrannie, au totalitarisme. Ça pourrait être aussi le langage de l'argent. L'avantage de l'argent, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule langue sans mots, la langue des chiffres. Pour conclure, l'altérité nous enserre de toutes parts. Et quand je choisis ce mot d'enserrer, c'est à dessein, c'est-à-dire que nous sommes immergés dans l'altérité. Et ça a parfois quelque chose d'oppressant. La relation est constitutive de la personne, mais cette relation est blessée. C'est pas confortable de vivre avec comme horizon la relation à l'autre. Cette anthropologie que je viens de dessiner à très gros traits, hein, il faudrait affiner, a quelque chose de très inconfortable. Et c'est pour ça que très souvent on est tenté d'en sortir. De retrouver une espèce d'autonomie comme d'auto-affirmation de soi où on est enfin bien en soi, un peu sans les autres. Fatigant, très fatigant d'être dans cette anthropologie lévinassienne. Mais il s'agit de comprendre, et c'est la conclusion, qu'il y a en moi-même un autre plus intime que moi. Ça, c'est une phrase de saint Augustin. Et la phrase continue, « Il y a en moi-même un autre plus haut que la plus haute partie de moi-même. » Et je crois que le pari de Lévinas, qui est le pari de l'Évangile, qui est notre pari à nous, chrétiens, cet horizon-là fait qu'on regarde à la fois vers la terre, au commencement était la relation, et vers le ciel, à la fin sera la relation. Et que ça vaut le coup, que ça ouvre notre avenir, que ça nous met en marche non pas pour regarder le passé avec nostalgie, mais pour regarder l'avenir plein de promesses.